Spinoza, éthique, traduction Charles Apoun, deuxième partie, de la nature et de l'origine de l'âme, du début jusqu'à la proposition 12 comprise. Je passe maintenant à l'explication des choses qui ont dû suivre nécessairement de l'essence de Dieu ou de l'être éternel et infini. Je ne traiterai pas de toutes cependant, car nous avons démontré, proposition 16 de la partie 1, qu'une infinité de choses devait suivre de cette essence en une infinité de modes. J'expliquerai seulement ce qui peut nous conduire, comme par la main, à la connaissance de l'âme humaine et de sa béatitude suprême. Définition. 1. J'entends par corps un mode qui exprime l'essence de Dieu en tant qu'on la considère comme chose étendue, d'une manière certaine et déterminée. Voyez le corollaire de la proposition 25, partie 1. 2. Je dis que cela appartient à l'essence d'une chose qu'il suffit qu'il soit donné pour que la chose soit posée nécessairement, et qu'il suffit qu'il soit ôté pour que la chose soit ôtée nécessairement. Ou encore, ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue, et qui, vice-versa, ne peut sans la chose être ni être conçue. 3. J'entends par idée un concept de l'âme que l'âme forme pour ce qu'elle est une chose pensante. Explication. Je dis concept de préférence à perception parce que le mot de perception semble indiquer que l'âme est passive à l'égard d'un objet, tandis que concept semble exprimer une action de l'âme. 4. J'entends par idée adéquate une idée qui, en tant qu'on la considère en elle-même, sans relation à l'objet, a toutes les propriétés ou dénominations intrinsèques d'une idée vraie. Explication. Je dis intrinsèque pour exclure celle qui est extrinsèque, à savoir l'accord de l'idée avec l'objet dont elle est l'idée. 5. La durée est une continuation indéfinie de l'existence. Explication. Je dis indéfinie parce qu'elle ne peut jamais être déterminée par la nature même de la chose existante, non plus que par sa cause efficiente, laquelle, en effet, pose nécessairement l'existence de la chose, mais ne l'ôte pas. 6. Par réalité et par perfection, j'entends la même chose. 7. Par chose singulière, j'entends les choses qui sont finies et ont une existence déterminée. Que si plusieurs individus concourent en une même action de telle sorte que tous soient cause à la fois d'un même effet, je les considère tous à cet égard comme une même chose singulière. Axiome. 1. L'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence nécessaire, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien se faire, suivant l'ordre de la nature, que cet homme-ci ou celui-là existe, qu'il peut se faire qu'il n'existe pas. 2. L'homme pense. 3. Il n'y a de mode de pensée tel que l'amour, le désir ou tout autre pouvant être désigné par le nom d'affection de l'âme qu'autant qu'est donné dans le même individu une idée de la chose aimée, désirée, etc. Mais une idée peut être donnée sans que soit donné aucun autre mode de pensée. 4. Nous sentons qu'un certain ordre est affecté de beaucoup de manières. 5. Nous ne sentons ni ne percevons nulle chose singulière, sauf des corps et des modes de pensée. Voir les postulats à la suite de la proposition 13. Proposition 1. La pensée est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose pensante. Démonstration. Les pensées singulières, c'est-à-dire cette pensée-ci ou celle-là, sont des modes qui expriment la nature de Dieu d'une manière certaine et déterminée. Corollaire de la proposition 25, partie 1. Un attribut dont toutes les pensées singulières enveloppent le concept, attribut par le moyen duquel aussi ces pensées se conçoivent, appartient donc à Dieu. Définition 5, partie 1. C'est pourquoi la pensée est un des attributs infinis de Dieu, lequel exprime une essence éternelle et infinie de Dieu. Définition 6, partie 1. Autrement dit, Dieu est chose pensante. CQFD. Scoli. Cette proposition est encore évidente par cela seul que nous pouvons concevoir un être infini pensant. Plus en effet un être pensant peut penser de choses, plus nous concevons qu'il contient de réalité ou perfection. Donc, un être qui peut penser une infinité de choses en une infinité de modes est nécessairement infini par la vertu du penser. Puis donc, qu'ayant égard uniquement à la pensée, nous concevons un être infini, la pensée est nécessairement, définition 4 et 6, partie 1, l'un des attributs infinis de Dieu, comme nous le voulions. Proposition 2. L'étendue est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose étendue. Démonstration. On procède ici de la même façon que dans la démonstration précédente. Proposition 3. Il y a nécessairement en Dieu une idée tant de son essence que de tout ce qui suit nécessairement de son essence. Démonstration. Dieu, en effet, proposition 1, peut penser une infinité de choses en une infinité de modes, ou, ce qui revient au même, suivant la proposition 16 de la partie 1, former l'idée de son essence et de tout ce qui en suit nécessairement. Or, tout ce qui est au pouvoir de Dieu est nécessairement, proposition 35, partie 1, donc, une telle idée est nécessairement donnée et, proposition 15, partie 1, ce ne peut être autre part qu'en Dieu. CQFD. Scoli. Le vulgaire entend par puissance de Dieu une volonté libre et un droit s'étendant à tout ce qui est. Et pour cette raison, toutes choses sont communément considérées comme contingentes. Dieu, dit-on en effet, a le pouvoir de tout détruire et tout anéantir. On compare en outre très souvent la puissance de Dieu à celle des rois. Mais nous avons réfuté cela dans les corollaires 1 et 2 de la proposition 32, partie 1. Et dans la proposition 16, partie 1, nous avons montré que Dieu agit par la même nécessité par laquelle il forme une idée de lui-même. C'est-à-dire, de même qu'il suit de la nécessité de la nature divine, comme tous l'admettent d'une commune voix, que Dieu forme une idée de lui-même, il suit aussi, avec la même nécessité, que Dieu produise une infinité d'actions en une infinité de modes. En outre, Nous avons montré, proposition 34 de la partie 1, que la puissance de Dieu n'est rien d'autre que l'essence active de Dieu. Il nous est donc aussi impossible de concevoir Dieu comme n'agissant pas que comme n'étant pas. De plus, s'il me plaisait de poursuivre, je pourrais aussi montrer ici que cette puissance que le vulgaire attribue à Dieu par fiction, non seulement est celle d'un homme, ce qui fait voir que le vulgaire conçoit Dieu comme un homme ou pareil à un homme, mais enveloppe aussi l'impuissance. Je ne veux pas toutefois reprendre si souvent le même discours. Je me contente de prier avec instance le lecteur d'examiner à plusieurs reprises ce qui est dit dans la première partie sur ce sujet, depuis la proposition 16 jusqu'à la fin. Nul, en effet, ne pourra percevoir correctement ce que je veux dire s'il ne prend garde à ne pas confondre la puissance de Dieu avec la puissance humaine ou le droit des rois. Proposition 4. L'idée de Dieu, de laquelle suivent une infinité de choses en une infinité de modes, ne peut être qu'unique. Démonstration. L'entendement infini ne comprend rien sinon les attributs de Dieu et ses affections. Proposition 30, partie 1. Or, Dieu est unique. Corollaire 1 de la proposition 14, partie 1. Donc, l'idée de Dieu, de laquelle suivent une infinité de choses en une infinité de modes, ne peut être qu'unique. CQFD. Proposition 5. L'être formel des idées reconnaît pour cause Dieu en tant seulement qu'il est considéré comme être pensant, non en tant qu'il s'explique par un autre attribut. C'est-à-dire, les idées, tant des attributs de Dieu que des choses singulières, reconnaissent pour cause efficiente non les objets dont elles sont les idées, ou en d'autres termes, les choses perçues, mais Dieu lui-même, en tant qu'il est chose pensante. Démonstration. Cela est évident par la proposition 3. Là, en effet, nous établissions que Dieu peut former une idée de son essence et de tout ce qui en suit nécessairement, en nous fondant seulement sur ce qu'il est chose pensante, et non sur ce qu'il serait l'objet de sa propre idée. C'est pourquoi l'être formel des idées reconnaît pour cause Dieu en tant qu'il est chose pensante. Mais voici une autre démonstration. L'être formel des idées est un mode du penser comme il est connu de soi. C'est-à-dire, corollaire de la proposition 25, partie 1. Un mode qui exprime d'une certaine manière la nature de Dieu en tant qu'il est chose pensante, et ainsi, proposition 10, partie 1, n'enveloppe le concept d'aucun autre attribut de Dieu, et conséquemment, axiome 4, partie 1, n'est l'effet d'aucun autre attribut, sinon de la pensée, donc l'être formel des idées, a pour cause Dieu, en tant seulement qu'il est considéré comme chose pensante, etc. C'est QFD. Proposition 6. Les modes de chaque attribut ont pour cause Dieu, en tant seulement qu'il est considéré sous l'attribut dont ils sont des modes, et non en tant qu'il est considéré sous un autre attribut. Démonstration. Chaque attribut, en effet, est conçu par soi en faisant abstraction de ce qui n'est pas lui, proposition 10, partie 1. Donc, les modes de chaque attribut enveloppent le concept de leur attribut, mais non d'un autre. Et ainsi, axiome 4, partie 1, ont pour cause Dieu, entend seulement qu'il est considéré sous cet attribut dont ils sont des modes, et non en tant qu'il est considéré sous aucun autre. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que l'être formel des choses, qui ne sont pas des modes du penser, ne suit pas de la nature divine par la raison qu'elle a d'abord connu les choses. Mais les choses qui sont les objets des idées suivent et sont conclues de leurs attributs propres de la même manière et avec la même nécessité que nous avons montré que les idées suivent de l'attribut de la pensée. Proposition 7. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Démonstration. Cela est évident par l'axiome 4, partie 1, car l'idée de chaque chose causée dépend de la connaissance de la cause dont elle est l'effet. Corollaire. Il suit de là que la puissance de pensée de Dieu est égale à la puissance actuelle d'agir, c'est-à-dire tout ce qui suit formellement de la nature infinie de Dieu suit aussi en Dieu objectivement dans le même ordre et avec la même connexion de l'idée de Dieu. Scoli. Ici, avant de poursuivre, il nous faut nous rappeler ce que nous avons fait voir ci-dessus. Que tout ce qui peut être perçu par un entendement infini comme constituant une essence de substance appartient à une substance unique. Et en conséquence, que substance pensante et substance étendue, c'est une seule et même substance comprise, tantôt sous un attribut, tantôt sous l'autre. De même aussi, un mode de l'étendue et l'idée de ce mode, c'est une seule et même chose, mais exprimée en deux manières. C'est ce que quelques Hébreux semblent avoir vu comme à travers un nuage. Je veux dire, ceux qui admettent que Dieu, l'entendement de Dieu et les choses dont il forme l'idée, sont une seule et même chose. Par exemple, un cercle existant dans la nature et l'idée du cercle existant, laquelle est aussi en Dieu, c'est une seule et même chose qui s'explique par le moyen d'attributs différents. Et ainsi, que nous concevions la nature sous l'attribut de l'étendue ou sous l'attribut de la pensée, ou sous un autre quelconque, nous trouverons un seul et même ordre ou une seule et même connexion de cause, c'est-à-dire les mêmes choses suivant les unes des autres. Et si j'ai dit que Dieu est cause d'une idée, de celle d'un cercle, par exemple, entend seulement qu'il est chose pensante, comme du cercle entend seulement qu'il est chose étendue, mon seul motif pour tenir ce langage a été qu'on ne peut percevoir l'être formel de l'idée du cercle que par le moyen d'un autre mode de pensée, qui en est comme la cause prochaine, et qu'on ne peut percevoir cet autre à son tour que par le moyen d'un autre encore et ainsi à l'infini, de sorte que, aussi longtemps que les choses sont considérées comme des modes du penser, nous devons expliquer l'ordre de la nature entière, c'est-à-dire la connexion des causes par le seul attribut de la pensée, et en tant qu'elles sont considérées comme des modes de l'étendue, l'ordre de la nature entière doit être expliqué aussi par le seul attribut de l'étendue, et je l'entends de même pour les autres attributs. C'est pourquoi Dieu est réellement, en tant qu'il est constitué par une infinité d'attributs, cause des choses comme elles sont en elles-mêmes, et je ne puis présentement expliquer cela plus clairement. Proposition 8. Les idées des choses singulières ou modes, n'existant pas, doivent être comprises dans l'idée infinie de Dieu, de la même façon que les essences formelles des choses singulières ou modes sont contenues dans les attributs de Dieu. Démonstration. Cette proposition est évidente par la précédente, mais elle se connaît plus clairement par le scoli précédent. Corollaire. Il suit de là qu'aussi longtemps que des choses singulières n'existent pas, si ce n'est en tant que comprises dans les attributs de Dieu, leur être objectif, c'est-à-dire leurs idées n'existent pas, si ce n'est en tant qu'existe l'idée infinie de Dieu. Et, sitôt que des choses singulières sont dites exister, non seulement en tant que comprises dans les attributs de Dieu, mais en tant qu'elles sont dites durées, leurs idées aussi envelopperont une existence par où elles sont dites durées. Scoli. Si quelqu'un désire un exemple pour expliquer plus amplement ce point, je n'en pourrais certes donner aucun qui explique adéquatement la chose dont je parle ici, attendu qu'elle est unique. Je m'efforcerai cependant d'illustrer ce point comme il se peut faire. Un cercle est, on le sait, d'une nature telle que les segments formés par toutes les lignes droites se coupant en un même point à l'intérieur donnent des rectangles équivalents. Dans le cercle sont donc contenues une infinité de paires de segments d'égal produit. Toutefois, aucune d'elles ne peut être dite exister si ce n'est en tant que le cercle existe. Et de même, l'idée d'aucune de ces paires ne peut être dite exister si ce n'est en tant qu'elle est comprise dans l'idée du cercle. Concevons cependant que de cette infinité de paires, deux seulement existent, savoir D et E. Certes, leurs idées existent alors non seulement en tant que comprises dans l'idée du cercle, mais aussi en tant qu'elles enveloppent l'existence de ces paires de segments. Par où il arrive qu'elles se distinguent des autres idées, des autres paires. Proposition 9. L'idée d'une chose singulière existant en acte a pour cause Dieu non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'on le considère comme affecté de l'idée d'une autre chose singulière existant en acte, idée de laquelle Dieu est cause pareillement en tant qu'il est affecté d'une troisième et ainsi à l'infini. Démonstration. L'idée d'une chose singulière existant en acte est un mode singulier du penser et distinct des autres, corollaire et scoli de la proposition 8. Non seulement, proposition 28 partie 1, en tant qu'il est chose pensante absolument, mais en tant qu'il est considéré comme affecté d'un autre mode de pensée. Et de ce dernier, pareillement, Dieu est cause en tant qu'il est affecté d'un autre, et ainsi à l'infini. Or, l'ordre et la connexion des idées, proposition 7, sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. L'idée d'une certaine chose singulière a donc pour cause une autre idée, c'est-à-dire Dieu, en tant qu'on le considère comme affecté d'une autre idée. Et cette autre idée, pareillement, a pour cause Dieu, en tant qu'il est affecté d'une troisième, et ainsi à l'infini. C'est QFD. Corollaire. De tout ce qui arrive dans l'objet singulier d'une idée quelconque, la connaissance est donnée en Dieu, en tant seulement qu'il a l'idée de cet objet. Démonstration. De tout ce qui arrive dans l'objet d'une idée quelconque, une idée est donnée en Dieu. Proposition 3. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'on le considère comme affecté d'une autre idée de chose singulière. Proposition précédente. Mais, proposition 7, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. La connaissance de ce qui arrive dans un objet singulier sera donc en Dieu, en tant seulement qu'il a l'idée de cet objet. CQFD. Proposition 10. L'être de la substance n'appartient pas à l'essence de l'homme, autrement dit, ce n'est pas une substance qui constitue la forme de l'homme. Démonstration. L'être de la substance, en effet, enveloppe l'existence nécessaire. Proposition 7, partie 1. Si donc l'être de la substance appartenait à l'essence de l'homme, la substance étant supposée donnée, l'homme serait nécessairement donné, définition 2, et conséquemment, l'homme existerait nécessairement, ce qui, axiome 1, est absurde. Donc, etc., CQFD. Scoli. Cette proposition se démontre aussi par la proposition 5, partie 1, à savoir qu'il n'existe point deux substances de même nature. Puis donc que plusieurs hommes peuvent exister, ce qui constitue la forme de l'homme n'est point l'être de la substance. Cette proposition est encore rendue manifeste, comme chacun peut le voir aisément, par les autres propriétés de la substance, à savoir que la substance est, de sa nature, infinie, immuable, indivisible, etc. Corollaire. Il suit de là que l'essence de l'homme est constituée par certaines modifications des attributs de Dieu, car l'être de la substance, proposition précédente, n'appartient pas à l'essence de l'homme. Elle est donc quelque chose, proposition 15, partie 1, qui est en Dieu, et qui, sans Dieu, ne peut ni être conçu. Autrement dit, corollaire de la proposition 25, partie 1, une affection ou un mode qui exprime la nature de Dieu d'une manière certaine et déterminée. Scoli. Tous doivent accorder assurément que rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, car tous reconnaissent que Dieu est la cause unique de toutes choses, tant de leur essence que de leur existence. C'est-à-dire, Dieu n'est pas seulement cause des choses quant au devenir, comme on dit, mais quant à l'être. La plupart disent toutefois, appartient à l'essence d'une chose, ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue. Ou bien donc, il croit que la nature de Dieu appartient à l'essence des choses créées, ou bien que les choses créées peuvent être ou être conçues sans Dieu. Ou bien, ce qui est plus certain, ils ne s'accordent pas avec eux-mêmes. Et la cause en a été, je pense, qu'ils n'ont pas observé l'ordre requis pour philosopher. Au lieu de considérer avant tout la nature de Dieu, comme il le devait, puisqu'elle est antérieure, tant dans la connaissance que par nature, ils ont cru que, dans l'ordre de la connaissance, elle était la dernière, et que les choses appelées objets des sens venaient avant toutes les autres. Il en est résulté que, tandis qu'ils considéraient les choses de la nature, il n'est rien à quoi ils aient moins pensé qu'à la nature divine. Et, quand ils ont plus tard entrepris de considérer la nature divine, il n'est rien à quoi ils aient pu moins penser qu'à ces premières fictions sur lesquelles ils avaient fondé la connaissance des choses de la nature, vu qu'elles ne pouvaient les aider en rien pour connaître la nature divine. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'il leur soit arrivé de se contredire. Mais je ne m'arrête pas à cela. Mon intention était ici seulement de donner la raison pour laquelle je n'ai pas dit « appartient à l'essence d'une chose, ce sans quoi elle ne peut ni être conçue ». C'est parce que les choses singulières ne peuvent être ni être conçues sans Dieu, et cependant, Dieu n'appartient pas à leur essence. J'ai dit que cela constitue nécessairement l'essence d'une chose, qu'il suffit qu'il soit donné pour que la chose soit posée, et qu'il suffit qu'il soit ôté pour que la chose soit ôtée. Ou encore, ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue, et qui, vice-versa, sans la chose, ne peut ni être conçue. Proposition 11. Ce qui constitue en premier l'être actuel de l'âme humaine n'est rien d'autre que l'idée d'une chose singulière existant en acte. Démonstration. L'essence de l'homme, corollaire de la proposition précédente, est constituée par certains modes des attributs de Dieu, savoir, axiome 2, par des modes du penser. De tous ces modes, axiome 3, l'idée est de sa nature le premier, et quand elle est donnée, les autres modes, ceux auxquels l'idée est antérieure de sa nature, doivent se trouver dans cet individu. Même axiome. Ce qui constitue en premier l'être d'une âme humaine est donc une idée. Non cependant l'idée d'une chose non existante, car autrement cette idée, corollaire de la proposition 8, ne pourrait être dite exister. Ce sera donc l'idée d'une chose existant en acte, non toutefois d'une chose infinie. Car une chose infinie, proposition 21 et 22 partie 1, doit toujours exister nécessairement. Or, cela est absurde, axiome 1. Donc, ce qui constitue en premier l'être actuel de l'âme humaine est l'idée d'une chose singulière existant en acte. CQFD. Corollaire. Il suit de là que l'âme humaine est une partie de l'entendement infini de Dieu, et conséquemment, quand nous disons que l'âme humaine perçoit telle ou telle chose, nous ne disons rien d'autre sinon que Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il s'explique par la nature de l'âme humaine, ou constitue l'essence de l'âme humaine, a telle ou telle idée. Et, quand nous disons que Dieu a telle ou telle idée, non en tant seulement qu'il constitue la nature de l'âme humaine, mais en tant qu'il a outre cette âme et conjointement à elle, l'idée d'une autre chose, alors nous disons que l'âme humaine perçoit une chose partiellement ou inadéquatement. Scully. Les lecteurs se trouveront ici empêchés sans doute, et beaucoup de choses leur viendront à l'esprit qui les arrêteront. Pour cette raison, je les prie d'avancer à pas lents avec moi et de surseoir à leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient tout lu. Proposition 12. Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'âme doit être perçu par cette âme. En d'autres termes, une idée en est nécessairement donnée en elle. C'est-à-dire, si l'objet de l'idée constituant l'âme humaine est un corps, rien ne pourra arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l'âme. Démonstration. De tout ce qui est, en effet, arrive dans l'objet d'une idée quelconque, la connaissance est nécessairement donnée en Dieu. Corollaire de la proposition 9, en tant que le considère comme affecté de l'idée de cet objet, c'est-à-dire, proposition 11, en tant qu'il constitue l'âme de quelque chose. De tout ce donc qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'âme humaine, la connaissance est donnée en Dieu, en tant qu'il constitue la nature de l'âme humaine, c'est-à-dire, corollaire de la proposition 11, la connaissance de cette chose sera nécessairement dans l'âme, en d'autres termes, l'âme l'aperçoit. CQFD. Scoli, cette proposition est rendue évidente encore et se connaît plus clairement par leur scoli de la proposition 7 auquel on est prié de se reporter. Du début jusqu'à la proposition 12 comprise.